Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Patrick Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Directeur général d'opération Allnest. Directeur général opération d'Allnest, le family office de Jean-Michel Aulas. Sylvain Rébi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, Lété Kousmi et Rafik Smati, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes chef d'entreprise dans le digital et vous avez fondé Objectif France, qui se veut être une formation politique. Renaissance a donc acté l'idée du dividende salarié obligatoire pour toutes les entreprises et également l'idée d'un super dividende salarié en cas de super dividende. Donc, ça concernerait là le super dividende salarié que les entreprises de plus de 50 salariés, dans la mesure où le dividende versé aux actionnaires est 20% supérieur à sa moyenne des 5 années qui précèdent. Voilà. Ces deux dividendes salariés vont maintenant être discutés dans le cadre de la convention menée par Olivier Dussopt, et puis Renaissance annonce qu'ils arrêteront les aspects techniques lors de la convention prévue fin janvier 2023. Je rappelle que cette notion de dividende salarié, qui est un terme un peu marketing pour parler de participation et d'intéressement, fait partie des engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Mais derrière, il y a cette problématique importante, et surtout en ce moment, de partage du profit. Donc c'est un engagement sur lequel le président de la République aura du mal à ne pas respecter. Je vous entendais déjà réagir, Patrick Bertrand, sur ce dividende salarié. Mais là, c'est le côté obligatoire pour tous.
Hein. Oui. Vous parliez de marketing, parlons à ce moment-là du salaire des actionnaires. Puisque cette expression emporte une absence de pédagogie absolument incroyable. Puisqu'il faut toujours rappeler, c'est pas pour défendre le sujet des dividendes, toujours rappeler qu'il y a le capital travail et le capital financier. Et le capital financier, il touche rien. Alors qu'au passage, l'État est très normalement, les salariés ont perçu leur salaire, et qu'aussi les systèmes de participation et d'intéressement marcheraient bien. Il y a une chose qui me frappe, c'est que il y a des articles, je vais répondre à la question. Quand il y a des articles sur le montant des dividendes, on ne parle jamais du montant de la participation et de l'intéressement. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Et d'ailleurs, il y a une augmentation de 20% en 2022. Ça représente entre 17 et 20 milliards. Les dividendes, 47 milliards. Si on considère que tous les actionnaires étaient des personnes physiques, l'État, au passage, se sert sur les dividendes au travers de la flat tax. Donc, on n'est plus qu'aux alentours de 32 ou 33 milliards. Donc, ramenons déjà, faisons un petit peu de pédagogie. Le point fondamental, c'est d'améliorer le partage, non pas du profit, mais le partage de la valeur. Et il y a un certain nombre d'outils. Ces outils, il faut les étendre et les accélérer parce qu'ils fonctionnent bien. Et les chiffres que je viens donner l'expriment. Donc, il faut trouver les mécanismes qui permettent de l'étendre, y compris dans les petites et moyennes entreprises, et au passage que l'État arrête de servir, parce que je rappelle le rétablissement du forfait social sur la participation il y a quelques années, donc on arrête de...
Il a été considérablement abaissé le forfait social par la loi Pacte. C'est la partie fiscalité que l'État vient prendre sur la participation et l'intéressement, ce qui est un peu aberrant, vouloir promouvoir des outils tout en les taxant, c'est vrai que...
Absolument. Mais en tout cas, tout ce qui permettra à l'avenir d'étendre les mécanismes d'intéressement des salariés sous quelque forme que ce soit, parce qu'il y a une bonne bibliothèque entre participation, intéressement, il faut aussi développer l'actionnariat salarié, parce que au-delà du pouvoir d'achat et de la constitution d'un patrimoine, ça permet d'assurer une forme de pérennité aux entreprises. On le voit dans les entreprises dont l'actionnariat salarié est très développé. Le sujet, c'est le partage de la valeur. Comment est-ce qu'on l'améliore? Comment est-ce qu'on l'accélère? Et comment est-ce qu'on l'élargit?
C'est un truc d'expert de dire « Ah, c'est pas du partage du... » Je sais que vous avez raison. Le salaire arrive avant le profit dans le bilan de l'entreprise. Mais vouloir parler de partage de la valeur ou partage du profit, c'est un truc de BFM Business. Sur l'ensemble de l'opinion publique, c'est on partage le blé.
Le blé, 17 à 20 milliards, intéressement et participation.
Mais la nouveauté, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. C'est ça, le phénomène nouveau. On sent bien que cette histoire va prendre corps d'une manière ou d'une autre. Bon, Rafik Smati, comment est-ce que vous accueillez ça a été annoncé par l'eurodéputé Pascal Canfin, qui a été missionné sur ce sujet, vous le savez.
C'est un sujet qui est très intéressant et plus complexe qu'on ne le croit. Je vais vous dire pourquoi.
Mais il va falloir simplifier là, Raphaël.
Bah, c'est ce que je m'apprête
si
à faire.
Vous, si vous me faites que du complexe avec des gens qui ont besoin de simplicité bah, pour comprendre.
C'est ce que je m'apprête à faire.
Qu'est-ce qu'on va me donner? Voilà, si on regarde, je vais être un peu.
Si on regarde le sujet en tant qu'économiste, on regarde que la part des salaires dans la valeur ajoutée n'a pas baissé depuis l'après-guerre.
Bon, on a un débat maintenant avec Dany Lang sur ce sujet, qui, avec des sources européennes, nous dit que c'est pas vrai.
Il n'y a pas eu de distorsion notable au
notable,
profit du capital.
Notable, non. Notable.
Donc ça, a priori, ne justifie pas un tel débat. Ensuite, si on regarde le sujet en tant que chef d'entreprise, en tant que patron,
comment ça ne justifie pas un tel débat?
Bah parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de distorsion du capital par rapport au travail depuis 40 ans. La part du travail dans la valeur ajoutée est stable.
Il y a un débat sur le
fait. Et il y a eu des décrochages dans un très grand nombre de pays européens, pas en France. C'est ça la réalité.
D'accord, mais il y a un débat sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas assez de leur salaire pour vivre.
Alors justement,
même s'ils travaillent à temps plein.
Donc, d'un point de vue économique, j'ai un certain nombre de doutes. En tant que chef d'entreprise, j'ai des doutes aussi parce qu'on m'enlève de ma souveraineté. C'est-à-dire que ma souveraineté.
On vous impose.
Que chef d'entreprise, c'est de payer mes salariés et d'avoir la main sur le salaire de mes salariés. Et là, il y a une mesure unilatérale qui va m'obliger à faire un certain nombre de choix. Et je vous passe sur le fait que certains patrons ne se payent qu'en dividendes. Et là, ça va les mettre en situation de difficulté. Je vous passe aussi le cas que dans certaines entreprises, vous avez des dividendes qui remontent au niveau du holding pour financer un autre projet qui est porté par la holding, et ces entreprises-là seront aussi mises en difficulté. Donc, du point de vue du patron, ça pose un problème. En revanche, et c'est là où les choses sont intéressantes, du point de vue du citoyen, du consommateur, je comprends que ce débat puisse s'imposer aujourd'hui. Et si j'avais été aux responsabilités, au risque de vous surprendre, et malgré tout ce que je viens de dire avant, peut-être aurais-je porté une telle mesure. Parce qu'on est aujourd'hui dans un schéma où vous avez un chaos social qui est en train de s'installer dans notre pays, avec une inflation qui est galopante. Vous avez un certain nombre de signaux qui seront envoyés, des super profits de grandes entreprises. Alors c'est l'arbre qui cache la forêt.
Je sais,
évidemment.
Bien sûr.
Mais l'économie et la politique, c'est aussi une affaire de signaux. Et
c'est Montebourg qui disait, il ne faut pas ignorer la psychologie. Il avait très travaillé.
Et on s'apprête à faire passer une réforme des retraites qui sera contraignante. Et donc, je comprends que d'un point de vue politique, on ne puisse pas envoyer le signal qu'on est uniquement dans du sang et des larmes. Et que dans une situation de crise, il faut accepter l'idée que les salariés puissent participer à la réussite de leur entreprise. Donc, malheureusement ou heureusement, c'est le politique qui décide tout. Vous savez, la politique est au-dessus du reste dans une démocratie, par définition. Et donc, cette loi va probablement passer, va mettre des contraintes sur les chefs d'entreprise. Je le regrette en tant que patron, mais je m'en réjouis en tant que citoyen.
Oui, alors il y a un peu de machiavélisme politique. On veut surtout éviter, tuer le débat sur un éventuel retour de l'indexation des salaires sur l'inflation. Et avec ça, on se dit Et puis on veut aussi essayer de faire taire Jean-Paul Mattei, le patron du MoDem, qui lui brandit l'idée de taxer, donc la fiscalité. On veut éviter la case fiscalité. Il veut taxer temporairement ce qu'il appelle les super dividendes. Sylvain Aurébi, par rapport à ce. Moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser aux 35 heures. Le t-shirt à taille unique pour tout le monde le même jour. Les 35 heures, ça a été une hausse de salaire. Là, c'est un accroissement de la masse salariale obligatoire.
Oui, ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais heureusement, moi, je ne suis pas d'accord avec Rafik. Je pense que ça ne verra jamais le jour.
Alors, ça.
Je pense que c'est un rideau de fumée aujourd'hui. Parce que, comme vous le dites, on parle d'indexation des salaires, parce qu'on parle d'augmentation des impôts, que ce gouvernement ne veut ni indexer les salaires, ni augmenter les impôts, et qu'il faut bien trouver quelque chose pour gagner du temps, le temps que on voit l'inflation refluer un peu. Parce que le sujet, il est né avec l'inflation aujourd'hui. Le dividende salarié, bon, on l'a tous dit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est un mot. Enfin, quand on prépare une loi, un projet de loi, il faudrait qu'on ait des termes à la tête de ce projet de loi qui veuille dire quelque chose. Dividende, salarié, ça ne veut rien dire. Et Pascal Canfin le sait très bien, ça ne veut rien dire. En plus, dividende, salarié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié a des droits que sans avoir les devoirs liés à la possession d'actions.
Et parce que vous voulez vous arrêter. Mais oui, je comprends. Mais vous arrêtez des actions, sur le mot, bien sûr.
Vous avez des droits, vous avez des dividendes, mais vous avez aussi le contre-coup de la baisse de l'action si jamais l'entreprise se porte moins bien.
Oui, puis vous avez payé pour avoir ces droits.
Et puis vous avez payé. Donc ça ne signifie rien. Je pense que ça ne verra pas le jour. Ça ne verra d'autant moins le jour que le gouvernement a dit que ça passerait par la négociation avec les partenaires sociaux.
C'est très mal.
Grosse blague.
C'est très mal.
Grosse blague, quand on voit les résultats des négociations des partenaires sociaux, on peut penser que ça ne verra jamais le jour.
Mais non, mais vous savez comment ça marche. On fait une négo qui n'aboutira pas et l'État reprend la main à la fin comme d'habitude.
Absolument, donc, c'est je pense ce qui va se passer.
Les syndicats ne veulent que du salaire.
C'est absolument injuste parce que, encore une fois, on va favoriser les grosses boîtes qui versent du dividende au détriment les salariés des grosses boîtes, au détriment des salariés des plus petites boîtes qui ne peuvent pas verser de dividendes. Comme le disait Rafik, il y a des entreprises qui versent du dividende pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la rétribution des actionnaires, mais pour payer peut-être d'autres projets. Il y a des entreprises qui ne distribuent pas de dividendes pour tout réinvestir. Et donc leurs salariés vont être pénalisés parce que leur entreprise investit fortement et ne distribue pas de dividendes. C'est complètement absurde. C'est idiot économiquement, c'est idiot politiquement. Et donc ça ne verra jamais le jour. Je vous le signe aujourd'hui.
Mais si, ça va voir le jour.
Non, ça ne verra pas le jour.
La seule question qui va se poser, c'est quel va être le niveau d'usine à gaz qui va être mis en place.
Exactement. Moi, je dis niveau zéro, on en reparle au mois de mars prochain.
Et souvent, les prévisions de Sylvain, elles ont été avérées.
Oui, alors je partage.
Allez-y, Rafik.
Pardon, Rafik.
Non, mais toute la question est de savoir le niveau d'usine à gaz. Les exemptions, les cas particuliers, etc. Vous savez, le genre de choses dont on a le secret en France pour faire passer des réformes, mais avec mille et une exceptions qui fait que finalement plus personne n'y comprend rien. C'est ça le risque, parce que ça passera. Mais peut-être avec une usine à gaz qui fait qu'au final, vous aurez raison.
Alors, des réformes qu'on a voulu, qu'on a volontairement rendu complexes pour dire on l'a fait, mais on sait qu'avec à cause de la complexité, ça n'aura pas d'effet. Mais c'est tout à fait génial, ça.
Rafik a raison, et c'est le propre de la législation en France, c'est au lieu de voter un principe, on va dans le détail du détail du détail.
Toujours.
On pourrait imaginer qu'on vote le principe que l'ensemble des entreprises doivent mettre en place des accords d'intéressement sur le profit. Et on vote uniquement ce principe-là. Il y a une obligation de l'ensemble des entreprises. Il y a du profit, pas du profit. L'ajustement de l'accord d'intéressement est à la main des dirigeants et des partenaires sociaux. Et si on était dans ce contexte-là, je pense qu'on pourrait arriver, entreprise par entreprise, à trouver le bon chemin. Le problème, c'est que si jamais ce texte passe, on va la voir dans le détail du détail du détail, parce que les députés pensent qu'ils savent mieux que les dirigeants d'entreprise comment il faut manager leur entreprise.
Les accords de participation ou d'intéressement sont tout à fait faits pour ça.
Eh bien, exactement.
Ils sont complètement déconnectés de l'actionnariat. C'est avant la distribution de dividendes. Donc il faut, ce que fait la loi PAC déjà, il faut favoriser les accords, la participation, il faut favoriser les accords d'intéressement pour toutes les entreprises.
L'actionnariat salarié.
L'actionnariat salarié de la même façon, mais c'est par là que ça passera. Exactement. Je vous le garantis. Et pas du tout par une nouvelle loi sur le dividende salarié. Quel mot merveilleux.
Et en tout cas, ce qui m'a fait peur dans l'histoire, c'est qu'en Renaissance dit, on se retrouve pour notre convention en janvier 2023 et on va arrêter les aspects techniques. Quand on va arrêter, parce que là, le principe, on comprend. Tu verses du dividende à un actionnaire, tu dois verser du dividende à ton salarié. C'est obligatoire. Même si vous êtes deux. Bon. Alors, enfin, il y aura la problématique des patrons dont le dividende est la rémunération. Alors là, ça va.
Sans compter qu'il y a d'autres moyens de verser de l'argent aux actionnaires, qui est le rachat d'actions, par exemple, qui n'est pas un dividende et qui donc permettra à toutes les entreprises d'éviter de verser du dividende aux salariés.
C'est absurde.
Ah oui, non, mais alors en plus,
est débile.
Bon. En plus, je vois venir effectivement toutes les méthodes de contournement.
Ça n'a pas de sens.
C'est la raison pour laquelle vous avez raison. Mais le débat au niveau auquel on est, il est plus du tout économique. Il est politique.
On est bien d'accord.
Exactement. Vous avez aujourd'hui des gens qui voient aligner les milliards et qui se disent et pour moi. Voilà, c'est un vrai sujet politique. Si on veut éviter un déferlement de gilets jaunes 2.0 dans les mois qui viennent, c'est un sujet que nous devons prendre en considération. Et y compris
vous rendez compte de ce que vous dites, Rafik, et pour moi. Mais alors qu'on regarde tous les bilans qui sont faits justement du pouvoir d'achat des Français, et le dernier en date d'hier, où on a préservé le pouvoir d'achat des Français à coup de wagons de milliards. Et on a encore, je lis encore des réactions, il n'y a rien pour nous.
Non, attention, je suis tout à fait d'accord avec Rafik.
Sur quel sujet ?
Il faut résoudre le problème de ces gens qui n'ont pas de quoi finir le mois, qui voient les milliards passer et qui se disent « c'est jamais pour moi ». Mais ce n'est pas aux entreprises de payer ça. Parce que si ce sont les entreprises qui payent, c'est encore au détriment de notre efficacité par rapport à nos concurrents allemands, italiens, américains. Donc ça ne colle pas. On ne peut pas laisser porter ça sur les entreprises françaises.
Et je redis, au risque de me répéter, 17 à 20 milliards. Si on parle de milliards, on y va. Les 47 milliards de dividendes et 17 à 20 milliards de participation et d'intéressement et plus de 10 millions de personnes concernées, soit pratiquement 50% des salariés du secteur privé.
Mais c'est assez extraordinaire d'ailleurs de voir que on a eu les estimations, on est entre 100 et même un peu plus de 100 milliards d'euros très largement dirigés depuis 2021, 2022, 2023 vers la demande, vers les ménages, et on a l'impression que ça ne se voit pas. Et là, on a le bilan qui a été fait par Fipadict, le pouvoir d'achat des ménages français. sera supérieur fin 2022 d'1,5% à son niveau de 2019. En Allemagne, c'est stable. En Italie, ça baisse. En Grande-Bretagne, ça baisse de 2,3%. En Allemagne, en Espagne, de près de 7%. Et on a l'impression qu'effectivement, ça part dans le sable et que personne ne le voit. Ça vous inspire une réaction, ça ?
Ça m'inspire une réaction que, en fait, à l'étranger, on ne parle pas de tous ces gens qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser de 2 ou 3%. Enfin, nous, on n'en parle pas en France. Mais il faudrait qu'on fasse plus de comparaisons de ce style pour montrer aux Français, finalement, qu'ils ne sont pas si maltraités. On dépense beaucoup d'argent en France. Et les gens sont devenus habitués, ils sont devenus un petit peu insensibles à ce qu'on leur donne, mais il faut de temps en temps faire des comparaisons avec les pays limitrophes dont les salariés souffrent beaucoup plus que les nôtres.
Ce qui me surprend, c'est que ne revienne pas le débat sur la TVA sociale, puisque là on parle de précarité. Et donc, précarité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir s'alimenter correctement, enfin tout ce qui est consommation de biens de base. Et je pense que l'on pourrait traiter ce sujet plutôt que d'avoir un peu l'hélicoptère à monnaie qui arrive régulièrement, qu'on pourrait, sur des produits de base, pendant un certain temps, étendre la TVA réduite pour faire en sorte qu'on arrive à un dispositif.
La TVA sociale suppose de baisser des cotisations financées par la TVA. En fait, ça bascule une partie du financement de la protection sociale vers l'impôt. Mais vous savez bien que les baisses de TVA, la répercussion n'est pas assurée. Quand vous dites qu'on va baisser une TVA comme on l'a fait dans la restauration, les cartes des restaurants, elles n'avaient pas baissé, on avait augmenté la marge des restaurateurs.
Moi, je parle sur les biens, ça existe déjà, le taux de TVA réduit sur les biens de base, et bien faisant en sorte qu'elle soit peut-être un peu étendue sur la consommation des biens de base, et de façon temporaire. Le problème, c'est qu'en France, quand on a voté quelque chose, ça dure éternellement.
Oui.
Sur le pouvoir d'achat, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En France, le pouvoir d'achat est maintenu, voire augmente par rapport aux autres pays européens. L'inflation est plus basse que dans les autres pays européens.
Il n'y a pas de doute.
Et la croissance sera meilleure ou la récession moins pire en fonction que dans les autres pays européens. Voilà le schéma macroéconomique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors tout cela nous coûte, si je peux reprendre l'expression, un pognon de dingue. C'est vrai. Et donc vous allez avoir deux hypothèses. Soit la crise que nous traversons aujourd'hui, en particulier la crise énergétique, la guerre en Ukraine, ne durera pas longtemps. Soit elle durera longtemps. Si ça ne dure pas longtemps, je vous le dis, la France raflera la mise. Extraordinaire. Nous serons en situation de redémarrer plus vite que les autres et nous raflerons la mise. Maintenant, si on est parti sur des périodes de tension qui vont durer 5 ou 10 ans...
On ne peut pas tenir le rythme
le mur de la dette en face de nous de manière évidente, avec des conséquences dramatiques. Mais je crois aujourd'hui, et nous sommes quelques chefs d'entreprise autour de cette table, notre morale à nous, chefs d'entreprise aujourd'hui, malgré tout le contexte extrêmement tourmenté, reste positif. Et ça, il faut que nous en ayons conscience. C'est-à-dire que nous considérons, et je considère, qu'à condition que cette crise ne dure pas trop longtemps, nous entrons possiblement, je l'ai déjà dit, ici, dans un nouvel âge d'or, une nouvelle renaissance, de nouvelles trente glorieuses portées par la nouvelle révolution technologique qui va nous permettre de créer de la richesse partout dans le domaine écologique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la mobilité, etc. Donc si on sait passer cette crise et qu'elle ne dure pas longtemps, je vous le dis, c'est la France qui raflera la mise. Et donc ça, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. On pourra faire le bilan de cela dans un an, dans deux ans ou dans dix ans. Mais les choix qui sont consentis aujourd'hui, qui sont critiqués, et pourtant je suis moi-même libéral, je suis contre par principe la dépense public. Mais dans ce cas précis, je considère que cela est un choix qui est politiquement gagnant.